deux fois le Lazaret resta sans médecin, et par des offres de fort salaire et de distinction, on ne put qu'à grand-peine, et tardivement, en avoir un certain nombre, bien au-dessous de celui qui t'exigeait le besoin. Cet établissement fut souvent sur le point de manquer de vivres, tellement que l'on put craindre d'y voir mourir les gens, non seulement de la peste, mais de la faim. Mais il ne fut pas rare aussi, lorsqu'on ne savait plus où donner de la tête pour se procurer le strict nécessaire, de voir arriver comme à point nommé d'abondants secours versés, sans qu'on s'y attendît, par des mains charitables. Car au milieu du trouble de tous les esprits et de l'indifférence que l'on éprouvait pour les autres, par suite de la crainte où chacun était continuellement pour soi, il y eut des âmes que la charité ne cessa d'animer. Il y en eut dans lesquelles la charité s'éveilla lorsque tous les plaisirs du monde cessèrent. De même que, si d'un côté la mort ou la fuite dégarnissait les rangs de ceux auxquels était confiée la direction des intérêts publics, il s'en trouva aussi qui conservèrent constamment la santé du corps comme la force de l'âme dans le poste où ils étaient placés. Il y en eut d'autres qui, mus par la piété, se donnèrent volontairement et remplirent avec gloire, en partageant les soins de ces derniers, une tâche qui ne leur était point imposée. Ce fut surtout parmi les ecclésiastiques que brilla une généreuse et constante fidélité au plus pénible devoir. Dans les lazarets, dans la ville, leur assistance ne manqua jamais. Ils étaient partout où était la souffrance. Toujours on les vit mêlés, confondus avec les moribonds. Et tandis quelquefois qu'ils étaient malades et moribonds eux-mêmes, avec les secours de l'âme, ils répandaient, par tous les moyens en leur pouvoir, les secours temporels. Ils rendaient tous les services que pouvaient réclamer les circonstances. Plus de 60 curés, dans la ville seulement, moururent de la contagion, c'est-à-dire environ les 8/9. Frédéric, comme on devait s'y attendre, les animait tous par ses paroles et son exemple. Après avoir vu périr presque toutes les personnes de sa maison, pressé par ses parents, par de hauts magistrats, par les princes voisins, de s'éloigner du danger en se retirant dans quelque campagne isolée, il repoussa et ce conseil et ses instances avec ce même cœur qui lui faisait écrire au curé de son diocèse. « Soyez disposés à abandonner cette vie mortelle plutôt que cette famille qui est la nôtre, que ces enfants qui nous appartiennent. Allez avec empressement, avec amour, au-devant de la peste comme à une récompense, comme à une vie nouvelle, toutes les fois qu'il y aura une âme à gagner à Jésus-Christ. » Il ne négligea pas les précautions qui ne l'empêchaient point de remplir son devoir. Il donna même, à cet égard, des instructions et des règles à son clergé. Mais en même temps, il ne s'inquiéta jamais du danger et ne parut pas même y prendre garde, lorsque, dans le bien qu'il allait faire, le danger se trouvait sur ses pas. Sans parler des ecclésiastiques, avec lesquels il était toujours pour louer et diriger leurs ailes, pour stimuler ceux d'entre eux qui auraient pu montrer à l'œuvre quelque tiédeur, pour les envoyer aux postes où d'autres avaient perdu la vie, il voulut qu'un libre accès auprès de sa personne fût toujours ouvert à quiconque aurait besoin de lui. Il visitait les lazarets pour donner des consolations aux malades et des encouragements à ceux qui les assistaient. Il parcourait la ville, portant des secours aux pauvres gens séquestrés dans leurs maisons, s'arrêtant à leurs portes, sous leurs fenêtres, pour écouter leurs doléances et leur offrir en échange des paroles de consolation et des exhortations au courage. Il se mit, en un mot, et vécut au milieu de la peste, si bien qu'il s'étonnait lui-même, lorsqu'elle eut cessé, d'avoir échappé à ses atteintes. C'est ainsi que, dans les grandes infortunes publiques et dans une longue perturbation de cet ordre de choses quelconque, qui est l'ordre des choses habituelles, on voit toujours la vertu s'accroître et devenir plus sublime, mais on n'y voit que trop aussi s'opérer un accroissement qui, d'ordinaire, est bien plus général dans le vice et la perversité. La calamité qui nous occupe en fournit trop bien la preuve. Les brigands, que la peste épargnait et n'épouvantait point, trouvèrent dans le désordre qui régnait partout, dans le relâchement de tous les ressorts de la force publique, une nouvelle occasion d'exercer leur funeste activité, et tout à la fois une nouvelle assurance de l'avoir impunie. Car l'action de la force publique elle-même passa en grande partie dans les mains des plus méchants d'entre eux. Les emplois de Monatti et d'Apparitori n'étaient en général recherchés et occupés que par des hommes sur qui l'attrait de la rapine et de la licence avait plus de pouvoir que la crainte de la contagion, que toute répugnance inspirée par la nature. On avait soumis ces agents à des règles très sévères, et s'ils y manquaient, à de très fortes peines. On leur avait assigné des lieux de station. Ils étaient, comme nous l'avons dit, sous la direction de commissaires spéciaux. Au-dessus des uns et des autres étaient placés, en qualité de délégués dans chaque quartier, des magistrats et des nobles, investis de l'autorité nécessaire pour procéder sommairement dans toute occurrence où l'intérêt de l'ordre pouvait réclamer leur action. Cela marcha ainsi jusqu'à une certaine époque et produisit assez bien l'effet qu'on s'en était promis. Mais chaque jour voyant s'accroître le nombre de ceux qui mouraient, de ceux qui fuyaient, de ceux qui s'absorbaient dans leurs troubles, ces gens en vinrent à être comme affranchis de toute surveillance. Ils se donnèrent, les Monatti surtout, un pouvoir arbitraire en toutes choses. Ils entraient dans les maisons en maîtres, en ennemis, et, sans parler des larcins qu'ils y commettaient, du traitement qu'ils faisaient subir aux malheureux que la peste obligeait à passer par de telles mains, ils les portaient, ces mains infectées et criminelles, sur les personnes que la peste n'avait point atteintes, sur les enfants, sur leurs parents, sur les femmes, sur leurs maris, menaçant de les traîner au lazaret s'ils ne se rachetaient ou n'étaient rachetés à prix d'argent. D'autres fois, ils faisaient payer leurs services, refusant d'enlever les cadavres déjà en putréfaction si on ne leur donnait en écus sonnants telle somme qu'ils fixaient eux-mêmes. On dit, et entre la légèreté des uns et la méchanceté des autres, il est également hasardeux de le croire et de ne pas le croire, on dit, et Taddino lui-même l'affirme, que des Monatti et des Apparitori laissaient à dessein tomber des chariots, des objets infectés, pour propager et faire durer la peste, devenue pour eux un revenu, un domaine, un sujet de réjouissance. D'autres misérables, se donnant pour des Monatti, portant une sonnette attachée au pied, ainsi qu'il était prescrit à ceux-ci de l'avoir, tant comme signe distinctif que pour avertir de leur approche, s'introduisaient dans les maisons et y commettaient toutes sortes d'excès. Dans quelques-unes, qui se trouvaient ouvertes et sans habitants, ou seulement habitées par quelques malades, quelques moribonds, des voleurs entraient, sans rien craindre, pour y ramasser du butin. D'autres étaient envahis par des sbires qui en faisaient de même, ou pis encore. Avec la perversité, et dans la même proportion, s'accrut la démence. Toutes les erreurs, déjà plus ou moins dominantes, acquirent, par la stupeur et l'agitation des esprits, une force extraordinaire, produisirent des effets plus rapides et plus étendus, et toutes servirent à renforcer et grandir cette peur distincte et au-dessus de toutes les autres, cette peur des onctions qui, dans les actes dont elle était la source et les satisfactions qu'elle se donnait, était souvent, comme nous l'avons vu, un autre genre de perversité. L'image de ce prétendu danger assiégeait et tourmentait les âmes bien plus que le danger effectif et actuel. Et tandis, dit Ripamonti, que les cadavres épars ou des tas de cadavres, toujours devant les yeux, toujours sous les pas des vivants, faisaient de toute la ville comme un seul et vaste tombeau, c'était quelque chose de plus triste encore. C'était une calamité plus hideuse que cette défiance ennemie où l'on était à l'égard les uns des autres, ce déchaînement de soupçons et ce qu'ils avaient de monstrueux. Ce n'était pas seulement de son voisin, de son ami, de son hôte que l'on prenait ombrage. Les noms même les plus doux, les liens d'amour parmi les hommes, ceux qui unissent l'épouse et l'épouse, le père et son fils, le frère et son frère, n'inspiraient plus que de la terreur. Et, chose horrible à raconter, la table domestique, le lit nuptial, étaient redoutés comme des lieux d'embûche où se cachait le poison. L'étendue que l'on prêtait au complot et son étrange caractère altéraient toutes les pensées d'où naît une mutuelle confiance. Dans le principe, on se bornait à croire que ces prétendus untori étaient mus par l'ambition et la cupidité. Plus tard, on rêva, on regarda comme véritable je ne sais quelle volupté satanique attachée aux onctions. On crut à un attrait qui leur était propre et qui dominait les volontés. Les paroles par lesquelles des malades en délire s'accusaient eux-mêmes de ce qu'ils avaient redouté de la part des autres semblaient des révélations et rendaient croyable, pour ainsi dire, tout ce qui pouvait être attribué à quelque personne que ce fût. L'impression dut être encore plus profonde, s'il est vrai que l'on vit des pestiférés, également dans les accès de leur délire, faire les mêmes choses qu'ils s'étaient figurés devoir être faites par les untori, circonstance en effet très probable et qui expliquerait mieux que tout autre raisonnement la conviction du public et l'affirmation de plusieurs écrivains sur ce chapitre des onctions. C'est ainsi que, pendant la longue et triste période des procès pour faits de sorcellerie, les aveux de quelques prévenus, aveux qui ne furent pas toujours extorqués, ne servirent pas médiocrement à produire et à soutenir l'opinion qui régnait sur la sorcellerie même. Car lorsqu'une opinion règne pendant longtemps, et dans une telle partie du monde, elle finit par s'exprimer de toutes les manières, par tenter toutes les voies, par aborder et parcourir tous les degrés de la persuasion. Et il est difficile que tous les esprits, ou le plus grand nombre, croient longuement qu'une chose extraordinaire se fait sans qu'il ne survienne quelqu'un qui croit la faire lui-même. Parmi les histoires auxquelles cette folie des onctions donna naissance, il en est une qui mérite d'être rapportée par le crédit qu'elle obtint et le chemin qu'on lui vit faire. On racontait, non partout de la même manière, ce serait un privilège trop particulier dont les fables seraient en possession, mais avec des versions qui se rapprochaient assez entre elles, on racontait que tel individu avait vu, tel jour, arriver sur la place du Duomo un carrosse à 6 chevaux, dans lequel se trouvait, avec d'autres personnages, un homme de haute apparence, dont la figure était tout à la fois sombre et animée, l'œil ardent, la chevelure hérissée, la lèvre menaçante. Pendant que le passant dont il s'agit regardait cet équipage, l'équipage s'était arrêté et le cocher avait engagé le passant à monter dans le carrosse, ce à quoi celui-ci n'avait su se refuser. Après divers circuits, on avait mis pied à terre à la porte d'un palais où il était entré avec les autres. Il y avait trouvé des beautés et des horreurs, des déserts et des jardins, des cavernes et de riches salons, et dans ces salons et ces cavernes, des fantômes assis et tenant conseil. Enfin, on lui avait montré de grandes caisses pleines d'argent, en lui disant d'en prendre autant qu'il en voudrait, sous la condition cependant qu'il accepterait un petit vase de drogue et qu'il irait avec cette drogue faire des onctions dans la ville. Mais n'ayant pas voulu y consentir, il s'était retrouvé en un clin d'œil dans le même endroit où on l'avait pris. Cette histoire, à laquelle tout le peuple milanais ajoutait pleine foi, et dont, au dire de Ripamonti, certains hommes de poids ne se moquaient point autant qu'ils auraient dû le faire, parcourut toute l'Italie et d'autres contrées aussi. En Allemagne, on en fit le sujet d'une estampe. L'électeur archevêque de Mayence écrivit au cardinal Frédéric pour lui demander ce qu'on devait croire des prodiges que l'on disait s'être vus à Milan. Il en eut pour réponse que c'était des rêves. Les rêves des savants étaient de même valeur s'ils n'étaient de même nature et ne produisaient pas des effets moins désastreux. La plupart voyaient tout à la fois l'annonce et la cause des malheurs dont on était affligé, dans une comète qui avait paru en l'année 1628 et dans une conjonction de Saturne avec Jupiter. La susdite conjonction, écrit Addino, inclinant sur cette année 1630, et si claire que chacun la pouvait comprendre, mortales parat morbos, miranda videntur. Elle prépare des maladies mortelles et l'on verra des choses surprenantes. Cette prédiction, tirée, disait-on, d'un livre intitulé Specchio degli almanacchi perfetti, miroir des almanachs parfaits, imprimé à Turin en 1623, était dans toutes les bouches. Une autre comète, qui s'était montrée dans le mois de juin de l'année même de la peste, fut regardée comme un nouvel avertissement, ou plutôt comme une preuve manifeste des onctions. Les érudits cherchaient dans les livres et n'y trouvaient qu'en trop grand nombre des exemples de peste faites, comme ils disaient, à main d'homme. Ils citaient Tite Live, Tacite, Dion, que dis-je, Homère et Ovide, et bien d'autres anciens qui avaient raconté ou indiqué des faits semblables chez les modernes. Ils étaient en ce point bien plus riches encore. Ils citaient 100 autres auteurs qui ont traité sous forme de doctrine spéciale ou parlé incidemment des poisons, des maléfices, des drogues et des poudres mortifères. Cesalpino, Cardan, Grevino, Salio, Pareo, Schenchio, Zacchia. Et, pour finir, ce funestre Del Rio, qui, si la renommée des auteurs était en raison du bien et du mal qu'ont produit leurs œuvres, devrait être un des plus fameux. Ce Del Rio, dont les veilles ont coûté la vie à un plus grand nombre d'hommes que ne l'ont fait les entreprises de certains conquérants. Ce Del Rio, dont les disquisitioni magiche, résumé de tout ce que les hommes avaient jusque à lui rêvé en semblable matière, devenu le livre le plus respectable, le plus digne de faire foi, furent, pendant plus d'un siècle, la règle et la trop puissante cause de ces meurtres légaux, dont on ne peut, sans frémir, rappeler la longue suite. Des imaginations du vulgaire, les gens instruits prenaient ce qui pouvait s'accommoder à leurs idées. Des imaginations des gens instruits, le vulgaire prenait ce qu'il en pouvait comprendre, et comme il le pouvait, et du tout se formait une masse énorme et confuse de démences communes à tous. Mais ce qui étonne le plus, c'est de voir les médecins, ceux d'entre eux, c'est-à-dire qui, dès le principe, avaient cru à la peste, c'est de voir, notamment Taddino, embrasser les déplorables idées de la multitude. Ce Taddino, qui avait annoncé la contagion, l'avait vu arriver, l'avait, pour ainsi dire, suivi de l'œil dans ses progrès, qui avait dit et proclamé que c'était la peste et qu'elle se prenait par le contact, que de l'absence de mesures préservatrices s'ensuivrait une infection générale. Ce même homme, ensuite, vient puiser dans ces mêmes faits qu'il a prédits un argument qu'il croit sans réplique à l'appui des onctions magiques et vénéneuses. C'était lui qui, dans la maladie de ce Carlo Colonna, mort le second de la peste à Milan, avait remarqué et signalé le délire comme l'un des symptômes de cette contagion. Et c'est lui qui, plus tard, n'hésite pas à donner comme une preuve des onctions et d'une conjuration formée sous les auspices du diable, un fait tel que celui qu'on va lire. Deux témoins déposés avoir entendu raconter par l'un de leurs amis malades qu'une nuit il avait vu paraître dans sa chambre des gens qui lui avaient offert sa guérison et de l'argent s'il voulait oindre les maisons des environs. Et sur son refus, ils étaient partis, laissant à leur place un loup sous le lit et trois gros chats sur les couvertures, lesquels y restèrent jusqu'au jour. Si une manière de raisonner était le fait d'un seul homme, on pourrait l'attribuer à un défaut de bon sens qui lui serait particulier, ou plutôt il n'y aurait pas lieu d'en faire mention. Mais comme ce fut le fait de plusieurs, ou pour mieux dire, de presque tous, c'est l'histoire de l'esprit humain, et l'on y trouve l'occasion de reconnaître combien une suite réglée et raisonnable d'idées peut être troublée par une autre suite d'idées qui se jette à travers. Du reste, ce Tadino était, dans notre cité, l'un des hommes de son temps les plus renommés par son talent et ses connaissances. Deux écrivains illustres, et qui ont bien mérité de leur pays, ont affirmé que le cardinal Frédéric doutait du fait des onctions. Nous voudrions pouvoir donner à cet homme si distingué et si digne d'affection une louange encore plus complète, et montrer le bon prélat supérieur en ce point comme en tant d'autres à la foule de ses contemporains. Mais nous sommes, au contraire, obligés de remarquer en lui encore un exemple de l'empire qu'exerce l'opinion du plus grand nombre sur les esprits mêmes dont on admire le plus les lumières. On a vu, du moins d'après ce qu'en dit Ripamonti, que dans le commencement il était vraiment dans le doute. Il pensa toujours ensuite que dans l'opinion régnante entrait pour une grande part la crédulité, l'ignorance, la peur, le désir d'excuser un trop long retard à reconnaître la contagion et à prendre des mesures pour s'en garantir, que l'on exagérait beaucoup, mais qu'en même temps il y avait quelque chose de véritable. On conserve dans la bibliothèque ambrosienne un petit ouvrage écrit de sa main sur cette peste, et ce jugement qu'il portait sur les onctions y est souvent indiqué, une fois même énoncé en termes précis. L'opinion commune, dit-il à peu près, était que l'on composait de ces drogues en divers lieux, et qu'il y avait plusieurs moyens de les employer. De ces moyens, quelques-uns nous paraissent véritables, d'autres de pure invention. Voici ses propres paroles. Unguenta vero aec aiebant componi concifique multifariam, fraudisque vias fuisse cum plures. Quarum sane fraudum et artium quidem assentimur, alias vero fictas fuisse cum mentitiasque arbitramur. De pestilentia quae medialanni anno 1630 magnam stragem edidit. Il y eut cependant des personnes qui pensèrent jusqu'à la fin et pendant toute leur vie que l'imagination avait fait en ceci tous les frais. Et nous le savons, non de ces personnes, car il n'y en eut aucune assez hardie pour émettre devant le public un sentiment si opposé à celui du public même, nous le savons des écrivains qui se moquent de ce sentiment, qui le critiquent ou le réfutent comme le préjugé de quelques individus, comme une erreur qui n'osait disputer ouvertement contre la sagesse générale, mais qui n'en existait pas moins. Nous le savons aussi d'un homme qui s'en était instruit par la tradition. J'ai trouvé des personnes sages à Milan, dit le bon Muratori dans son ouvrage cité plus haut, qui avaient reçu de leurs anciens des rapports dignes de confiance, et qui n'étaient pas bien convaincus que le fait de ces onctions vénéneuses fût véritable. On voit que c'est un épanchement secret de la vérité, une confidence domestique. Le bon sens y était, mais se tenait caché, par crainte de l'opinion avec laquelle nul autre n'entrait en partage. Les magistrats, chaque jour réduits en nombre et de plus en plus livrés à tout l'égarement de leurs troubles, employaient le peu de résolution dont ils étaient encore capables à rechercher les untori. Parmi les papiers du temps de la peste qui se conservent dans les archives, dont il a été plus haut fait mention, se trouve une lettre, sans aucun autre document relatif au fait qu'elle énonce, dans laquelle le grand chancelier s'empresse, et fort sérieusement, d'informer le gouverneur qui lui avait été donné à vie dans une maison de campagne appartenant aux frères Girolamo et Giulio Monti, gentilshommes milanais, ont composé du poison en si grande quantité que 40 hommes étaient occupés en este exercicio, à ce travail, et cela avec l'assistance de 4 nobles bresciens qui faisaient venir du pays vénitien la matière para la fabrica del veneno, pour la fabrication du poison. Il ajoute qu'il avait pris fort secrètement les mesures pour envoyer à l'endroit indiqué le podestat de Milan et l'auditeur de la santé avec 30 hommes de cavalerie. Que malheureusement l'un des frères avait été averti assez à temps pour faire disparaître les traces du délit, ce dont il était probablement redevable à l'auditeur même, ami de ce personnage. Que l'auditeur avait cherché à se dispenser de partir, mais que le podestat n'en était pas moins allé à reconnaître la casa y a ver si hallara algunos vestigios, reconnaître la maison et voir s'il ne trouverait pas quelques vestiges, prendre des informations et arrêter tous ceux qui pourraient être prévenus du fait. Les recherches apparemment n'aboutirent à rien, puisque les écrits du temps qui parlent des soupçons dont ces gentilshommes étaient l'objet ne citent aucun fait à la suite. Mais il n'est que trop vrai que, dans une autre circonstance, à force de chercher des coupables, on crut en avoir trouvé. Les procès qui furent la conséquence de cette prétendue et déplorable découverte n'étaient sans doute pas les premiers de ce genre. Et l'on ne saurait non plus les considérer comme une rareté dans l'histoire de la jurisprudence. Car, sans parler des temps anciens, et en nous bornant à indiquer quelques-uns de ces procès dont les dates se rapprochent le plus de l'époque qui nous occupe, l'on vit à Palerme en 1526, à Genève en 1530, puis en 1545, puis encore en 1574, à Casal de Monferrat en 1536, à Padoue en 1555, à Turin en 1599, à Turin encore dans cette même année 1630, poursuivre et condamner à des supplices qui ordinairement étaient des plus atroces, des infortunés en plus ou moins grand nombre dans ces diverses localités, et que l'on disait coupables d'avoir propagé la peste au moyen de poudres ou de drogues, ou de maléfices, ou du tout ensemble. Mais l'affaire des prétendues onctions de Milan, de même qu'elle fut la plus célèbre, est aussi peut-être celle qui mérite le plus d'être observée. Ou du moins, elle présente plus de moyens d'observation, parce qu'il nous reste à ce sujet des documents plus circonstanciés et plus authentiques. Et quoiqu'un écrivain auquel nous avons tout à l'heure rendu hommage s'en soit occupé avec la sagacité qui le distingue, P. Verri, cependant, comme il ne s'était pas autant proposé d'en donner l'histoire proprement dite, que d'y puiser des arguments pour un autre sujet d'une importance plus grande, ou, ce qui est sûr, du moins plus immédiate, qu'il avait entrepris de développer, il nous a paru que cette histoire pourrait être l'objet d'un nouveau travail. Mais trop de brièveté ne saurait y être permise, et ce n'est point ici qu'elle pourrait être traitée avec l'étendue qui lui convient. D'ailleurs, après s'être arrêté sur ces événements, le lecteur ne se soucierait certainement plus de connaître ceux de notre narration particulière qui nous restent à mettre sous ses yeux. Réservant donc pour un autre écrit le récit et l'examen de ceux que nous venons d'indiquer, nous reviendrons enfin à nos personnages pour ne les plus quitter jusqu'au terme de leurs aventures.